Info à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. En République démocratique du Congo, une vingtaine de civils ont été enlevés depuis vendredi dans l'est du pays, au pair de multiples groupes armés. Mais aucune revendication de ces kidnappings pour le moment. Abdourahmane Dia.
Selon Jason Tawiha, responsable administratif du territoire de Rutshuru, les enlèvements ont eu lieu à 75 km au nord de Goma, la capitale de la province du Nord Kivu. Les kidnappings ont eu lieu dans différentes localités, a-t-il indiqué. Jason Tawiha a précisé que les ravisseurs demandent des rançons et que les familles commencent à s'organiser pour libérer les leurs. Nous mettons en place des stratégies pour empêcher ces malfaiteurs d'accomplir leur sale besogne, a-t-il ajouté. Le président de la nouvelle société civile de Rutshuru, Jonas Pandasi, appelle ce jeudi à une journée sans travail avec marche pacifique contre les enlèvements. Plusieurs groupes armés prétendant défendre des communautés congolaises sont actifs dans le Rutshuru comme dans le reste du Nord Kivu. Les observateurs prêtent aussi à ces groupes armés des intentions sur le contrôle des minerais abondants dans le Nord Kivu, notamment le coltan.
Enlèvement au Cameroun également dans le cadre de l'agitation dans les régions anglophones du pays. Human Rights Watch, l'organisation de défense des droits humains basée à New York, réclame la libération immédiate d'une proviseure de lycée enlevée le 25 mai dans la banlieue de Boya, chef-lieu de la province anglophone du Sud-Ouest. Pour Human Rights Watch, les conflits ne doivent pas être un frein à l'éducation. Marie Benson.
Human Rights Watch réclame la libération immédiate de Georgiana Enanga Sanga. La proviseure d'un lycée près de Bouéa, en région anglophone, a été enlevée la semaine dernière par des séparatistes. L'organisation déclare que les attaques dans des écoles ne doivent pas être utilisées dans un conflit ou une lutte politique. Depuis 2017, les séparatistes ont incendié de nombreux établissements scolaires et ont kidnappé plusieurs fonctionnaires. Ils réclament un État anglophone indépendant. Malgré les combats quasi quotidiens dans le nord-ouest et le sud-ouest, les examens de fin d'année ont commencé cette semaine au Cameroun.
Mali, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a achevé hier une visite de 2 jours dans le pays où il a célébré mardi à Bamako la journée internationale des casques bleus avec la MINUSMA, la mission onusienne sur place. Le patron de l'ONU s'est rendu mercredi à Mopti pour une série de rencontres avec les organisations de la société civile, les leaders communautaires et la force du G5 Sahel qui a son quartier général dans cette ville du centre du Mali. Antonio Guterres a plaidé à cette occasion pour un soutien accru au G5 Sahel, la force conjointe anti-djihadiste mise sur pied par le Mali, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Compte rendu de notre correspondant à Mopti, Mamoudou Bokoum.
Cette visite de quelques heures a été l'occasion pour Antonio Guterres de faire une série de rencontres à Mopti. Tout d'abord, le secrétaire général des Nations Unies a eu un tête-à-tête avec l'état-major du G5 Sahel. Il a été question de l'opérationnalisation de la force des 5 pays du Sahel, une force qui attend beaucoup des Nations Unies. Didier Dako est le chef d'état-major général du G5 Sahel.
Ce que nous attendons de l'ONU, c'est un peu ce que nous attendons de toute la communauté internationale, un appui dans toutes les dimensions, que ce soit sur le plan opérationnel, que ce soit sur le plan logistique, pour aider la force à se construire davantage au plus vite et faire face ensuite aux missions qui sont les leurs.
Cette mission de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière est appréciée par le plus haut fonctionnaire international. C'est pourquoi Antonio Guterres s'est engagé à mettre tout son poids pour appuyer le G5 Sahel afin qu'il réussisse sa mission.
Nous ferons un plaidoyer très fort face à la communauté internationale pour que le G5 puisse disposer des ressources financières et matérielles nécessaires à son efficacité. Et nous demandons aussi à la communauté internationale un grand investissement pour le développement de la région, le développement du Sahel, parce qu'il n'y a pas de paix sans développement et il n'y a pas de développement sans paix.
Le numéro 1 des Nations Unies a aussi rencontré les leaders communautaires et les organisations de la société civile. Avec ces deux couches, il a été question de la situation que vit la région de Mopti. Mamoudou Bokoum à Mopti pour VOA Afrique.
Dans une conférence de presse à son retour à Bamako, Antonio Guterres a aussi souligné la nécessité pour le Mali d'avoir des élections libres. Il a ajouté que l'ONU fera de son mieux pour aider au bon déroulement des scrutins prévus le 29 juillet.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Madagascar, le président malgache Ariel Ratsoramampiane a déposé mercredi une requête auprès de la Haute Cour constitutionnelle de son pays. Il souhaite obtenir des éclaircissements sur la récente décision de ce tribunal, lui intimant l'ordre de former un gouvernement de coalition. Les précisions avec Irénée Hermanoumbo.
Il y a trop d'interprétations dans la décision de la Haute Cour constitutionnelle qui peuvent nourrir une autre crise selon l'avocate de la présidence, Tantélie Rakotonerina, d'où cette demande de clarification du président pour une explication de test. Eri Rajomanapiam entend éviter toute confusion sur la récente décision, lui demandant de nommer un gouvernement de coalition. Il souhaite avoir des précisions sur les pouvoirs du président et les délais d'exécution de cette décision. La plus haute instance judiciaire du pays a créé la surprise la semaine dernière en ordonnant la nomination d'un nouveau Premier ministre pour tenter de sortir de la crise. Dans son arrêt, elle écrit que le nouveau gouvernement devra refléter les résultats des législatives de 2013. Cette injonction a suscité une nouvelle polémique entre le régime et ses adversaires qui revendiquent tous les deux la majorité au Parlement. La Haute Cour a en outre créé la confusion en imposant un délai de 7 jours qui arrive à échéance demain vendredi et dans le même temps laisser 10 jours aux deux camps pour trouver un accord pour une sortie de crise.
Afrique du Nord, maintenant, la Ligue marocaine de défense des droits de l'homme a dressé mercredi un tableau sombre de la situation des droits de l'homme pour l'année 2017 au Maroc. Le point avec Bagassi Koura.
Dans son rapport annuel présenté à Rabat, l'ONG affirme que 17 000 manifestations ont été observées l'an passé dans le pays, dénonçant l'approche sécuritaire adoptée à plusieurs reprises par les autorités. Le Maroc a été agité par les mouvements de protestation dans la région du Rif d'octobre 2016 à mi-2017, à Djerida dès fin 2017 et à Zagora l'été dernier. La Ligue marocaine de défense des droits de l'homme accuse les autorités d'avoir réprimé les protestataires et appelle à la démission du ministre de l'Intérieur. L'ONG fondée en 1972 demande aussi la libération des 450 personnes arrêtées dans la région du Rif et à l'ouverture d'un dialogue sérieux avec le mouvement Hirak. Le ministre chargé des droits de l'homme, Mustapha Ramid, avait reconnu une nette amélioration en reconnaissant toutefois quelques dépassements. Le gouvernement a présenté fin 2017 un plan d'action de quelques 400 mesures et une série d'objectifs à atteindre d'ici à 2021 pour améliorer la situation.
Actualité aux États-Unis, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo retrouve ce jeudi le général Kim Jong-chol, le bras droit du leader de la Corée du Nord, Kim Jong-un, pour de nouveaux entretiens à New York en vue de remettre définitivement sur les rails le sommet historique entre Kim Jong-un et le président américain Donald Trump. La rencontre d'aujourd'hui va concerner les questions de fond sur la préparation du sommet. Jean-Roger Bion.
Après un bon dîner mercredi soir, Mike Pompeo et le général Kim remettent le couvert aujourd'hui pour de nouveaux entretiens. Le secrétaire d'État tiendra ensuite une conférence de presse. Le général Kim Jong-chol est le plus haut responsable nord-coréen à fouler le sol américain depuis 18 ans. L'objectif de leur discussion est de déterminer si les États-Unis et la Corée du Nord sont en mesure de fixer un ordre du jour partagé pour le sommet du 12 juin à Singapour. Mike Pompeo et Kim Jong-chol tentent a priori, selon les analystes, de concilier des attentes inconciliables. Washington réclame une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible, et n'entend pas lâcher du lest sur les sanctions internationales qu'une fois que le processus par nature complexe et long sera achevé, ou au moins très avancé. Pyongyang a de son côté accepté de parler d'une dénucléarisation, mais refuse qu'elle soit unilatérale et sa définition risque d'être éloignée de celle des Américains, tant les Nord-Coréens ont jusqu'ici présenté leur arsenal atomique comme une garantie pour la survie du régime. Outre les discussions à très haut niveau de New York, des délégations des deux pays se rencontrent à Panmunjom, dans la zone démilitarisée qui sépare les deux Corées, pour mettre au point l'ordre du jour du sommet, et aussi à Singapour pour coordonner cette fois la logistique. Parallèlement, les échanges entre les gouvernements américains, sud-coréens et japonais se sont encore intensifiés. Le premier ministre japonais Shinzo Abe rencontrera Mike Pompeo à Washington le 6 juin avant d'être reçu par Donald Trump à la Maison-Blanche le lendemain.
Toujours concernant le dossier nord-coréen, le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov a été reçu aujourd'hui pour la première fois par le leader nord-coréen Kim Jong-un lors d'une visite à Pyongyang. La première visite de M. Lavrov dans le pays depuis 2009. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.